Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Podcast is a new radio.
Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je ne suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf? Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabanon de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Cet épisode pourrait bien vous surprendre. En m'installant au Québec et en lançant ce projet de podcast, je ne pensais vraiment, mais alors vraiment pas, proposer un épisode sur le vin et le changement climatique. Et pourtant, je m'y attendais pas parce que je me souviens de la petite vigne que cultivait mon grand-père en Charente. La moindre gelée tardive, en général avril-mai, était un psychodrame local. Alors une vigne au Québec, j'avoue que pour moi c'était tout, mais alors tout sauf une évidence. Par contre, ce qui est beaucoup moins étonnant, c'est que ce soit une sommelière québécoise qui, la première, se penche sur l'impact du changement climatique sur le vin. Bah oui, il se trouve que le climat ici, c'est un sujet dont on se sent étonnamment tous très proche. Alors pour nous aider à découvrir cette étonnante facette du Québec, mon invité est Michèle Bouffard, sommelière, auteure, enseignante et chroniqueuse vin. Bon matin Michèle.
Bon matin.
Comment ça va aujourd'hui?
Ah, ça va très bien. Mon café est délicieux, je suis au Québec de retour, donc je suis très heureuse.
Oui, c'est vrai, de retour, parce que bah, pas mal de voyages ces derniers temps, des conférences, des lancements de livres et tout, enfin ça bouge pas mal quand même.
Oui, mais en fait, j'avais oublié parce qu'avant la pandémie, je passais à peu près 60% du temps sur la route. Et là, je me suis habituée à avoir ma petite routine à la maison depuis la pandémie. Et donc là, le train est reparti en septembre et j'ai été partie presque toute l'automne. Donc, j'avais oublié à quel point ça prend beaucoup d'énergie être toujours dans les valises.
C'est étonnant, hein. C'est vrai que ne serait-ce que de refaire une petite soirée en tamis quand ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait ça, on se retrouve étonnamment fatigué, content, hein, oui. Heureux, mais étonnamment fatigué à la fin de la soirée, comme si on a perdu l'habitude. C'est très étrange, c'est très étrange. On en a envie en même temps. Voilà. Michèle, merci beaucoup de participer à cette émission, parce que je le disais en introduction, Je m'attendais, mais alors vraiment pas, à voir ce genre de sujet ici au Québec. À vrai dire, même quand j'ai vu qu'il y avait des fruits et légumes qui étaient cultivés au Québec, déjà j'étais surpris, j'étais persuadé que tout venait de Californie. Bon, il y en a beaucoup qui viennent de Californie, mais pas tout. Et ceux qui viennent du Québec d'ailleurs sont particulièrement excellents. Mais ceci dit, vraiment surpris. Et j'aimerais qu'on commence cette émission par parler un petit peu de manière générale de la place qu'occupe la culture du vin au Québec. Pourquoi je pose cette question comme ça ? Parce que autant la culture de la bière m'a sauté aux yeux, c'est-à-dire que même si vous venez au Québec en tant que simple touriste, si vous allez dans un dépanneur, vous savez, ces épiceries qui y a un petit peu partout, vous allez trouver une pièce un petit peu étrange au fond du dépanneur, qui est un espèce de frigo géant. Voilà, mais frigo géant dans lequel vous rentrez, hein, éventuellement avec votre petit caddie, votre petit panier, et dans lequel vous avez, mais alors, pléthore de bières fraîches, c'est l'avantage, qui y a de partout. Et à l'inverse, trouver du vin, ben, c'est pas si évident que ça. Il y a plein d'endroits où, moi, par exemple, j'étais habitué à acheter du vin, ne serait-ce qu'en supermarché en France, où c'est beaucoup plus difficile d'en trouver pour X raisons que je ne sais pas ici. Donc, ma première impression, c'était, OK, le Québec, grosse culture de la bière, beaucoup de microbrasseries, mais pas forcément une grosse culture du vin, et il semblerait que je me sois bien gouré. C'est quoi ça, oui, donc, la place de la culture du vin au Québec?
Ben, en fait, c'est très important. Je pense que peut-être que votre expérience est due au fait que lorsqu'on va dans les dépanneurs, on va trouver justement des bonnes bières de microbrasserie, alors que pour le vin, on va trouver des vins embouteillés au Québec, c'est-à-dire des vins qui arrivent ici en vrac, et ensuite on les embouteille sur place. Et donc les vins de dépanneur qu'on appelle, on voit des vins qui sont très bons. Alors faut aller à la SAQ pour trouver la bonne sélection. Et au-delà de ça, après, ben il y a tous les agents qui importent du vin qu'on appelle en importation privée. Donc on a accès à des vins exclusifs qui se retrouvent pas à la SAQ, mais qu'on commande à travers un agent qui importe le vin, et on reçoit en fait notre commande à la SAQ, mais on la voit pas sur les étagères, il faut aller la chercher, elle est à notre nom. Donc oui, c'est vrai qu'il y a vraiment une culture très intéressante de vin au Québec. Je pense que ce lien qu'on a avec l'Europe, avec la France, hein, cet amour qu'on a au Québec pour la France, pour nos cousins français, je pense qu'on a toujours un peu idolâtrer en fait la France, on le fait encore, et je pense que tout ça a fait en sorte que on mange bien au Québec, on a des bonnes tables, on a des bons chefs, mais on est aussi très gourmand. Donc avec ça vient la culture du vin, vient des sommeliers qui ont étudié partout dans le monde, des sommeliers qui se sont démarqués dans les concours au niveau mondial également. Donc si on voyage un peu, on se rend compte que par exemple, si on va en Bourgogne, on peut avoir un sommelier qui travaille dans un restaurant bourguignon, il va connaître les vins français, mais demande-lui pas s'il connaît les vins australiens, néo-zélandais ou chiliens, il connaîtra pas, il va connaître les vins français. En Italie, c'est la même chose, tu vas en Italie, à moins qu'on soit dans une grande ville avec un restaurant 5 étoiles, les sommeliers vont connaître les vins italiens. Alors qu'ici, la connaissance des sommeliers, c'est mondial. Et je vous dirais que on est devenu un endroit. Le Québec est une référence, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de connaissances au Québec, et à l'international, les gens du Québec se démarquent énormément. Et je dirais même au Canada, parce que moi j'ai habité à Vancouver pendant 20 ans. Ça fait seulement 7 ans que je suis de retour ici à Montréal. Et c'était la même chose à Vancouver, la culture du vin. En fait, il y a énormément de connaissances et on se démarque aussi à l'international. Donc, oui.
C'est vrai que ça m'a étonné, mais si toujours je fais ce que je fais souvent dans cette émission, un espèce de parallèle avec la France, depuis quelques années, est rentrée dans une espèce de lutte bicéphale. C'est-à-dire que d'un côté, on a le vin qui est évidemment quelque chose d'éminemment culturel, de très important. Et en même temps, on a la consommation d'alcool, d'une manière générale, qui est plus problématique, qui baisse auprès des jeunes générations. Et il y a toujours ce côté en disant, buvez moins d'alcool. Oui, mais attention, le vin. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Et du coup, il y a des interdictions de publicité. On en parle forcément peu. Alors, on compense parce qu'on connaît naturellement, c'est culturel, mais on en parle peu. Et ici, j'ai été J'ai été surpris de voir dans des émissions des chroniqueurs, des chroniqueuses présenter leur sélection de vins à des heures de grande écoute dans des émissions, sans forcément y mettre 12 000 formes de messages sanitaires et tout, mais par contre toujours de manière hyper quali pour des qualitatifs pour des moments, des choses comme ça. On n'a pas le même. J'ai l'impression que le rapport à l'alcool d'une manière générale est lui aussi un petit peu différent ici.
Oui, mais c'est quand même étonnant parce que en fait, en surface, on a l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'ai commencé à voyager en France pour le travail il y a plus de 20 ans, on allait au restaurant le midi et j'adorais voir les gens un mardi midi qui prennent une salade ou un croque-monsieur, peu importe, puis il y avait un verre de vin. Et moi, ce que j'ai toujours beaucoup apprécié de l'Europe, en Italie, en France, c'était cette consommation qui était toujours modérée. On n'était pas jamais dans les excès, mais le vin faisait partie de tous les jours, sans être dans l'excès. Aujourd'hui, on a raison que les gens qui sont, en fait, les gens de la politique, donnent un message aux Français que le vin est mauvais pour la santé. Faut faire attention, les messages sont mixtes. Sont basés sur des recherches parfois qui ont été payées, des recherches qui ont été payées par des gens pour avoir un résultat qui est mis de l'avant. Donc, on connaît plus le message. On voit que les gens qui boivent plus en France, c'est les plus vieilles générations, alors que les jeunes générations boivent de moins en moins. Et j'ai beaucoup d'amis en France qui sont des journalistes, des chroniqueurs. Et en fait, moi, je suis à une émission de télé ici au Québec qui est très connue, Curieux Bégin, qui a beaucoup d'écoute. Mm-hmm. Et je parle de vin pendant une heure. On boit à l'émission et mes amis français disent « Non, mais attends, on pourrait jamais faire ça en France. C'est interdit. » Jamais. Ouais. Donc, c'est un peu particulier. Je sais pas si on va balancer de l'autre côté au Québec. Mais c'est un peu un paradoxe. Je sais pas où on s'en va avec ça. Moi, je suis une éternelle optimiste. Je pense que parfois, il faut aller trop loin d'un côté pour revenir dans le milieu.
Oui, c'est souvent ça. On passe d'un excès à un autre avant de trouver un point d'équilibre.
Oui, donc je sais pas, mais... J'espère, parce que la culture du vin, pour moi, c'est tellement important, ça englobe tellement de choses. C'est la culture d'un peuple qui s'inscrit dans le vin, autant que dans les arts, autant que dans plein de choses. Le vin en fait partie, c'est une culture, c'est de l'art. Ça porte l'histoire d'un peuple, d'un pays. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer de préserver ça que les Français, que les nouvelles générations vont continuer de perpétuer ça, en fait.
Nous verrons bien, mais c'est vrai que c'est pas des sujets si simples que ça. Non. Pour revenir au vin au Québec et au vin québécois, parce que tu le disais, enfin vous le disiez pardon à la SAQ, il y a des vins québécois.
Oui.
Et moi j'étais surpris. Faut m'excuser pour les questions bêtes, mais comment est-ce qu'on peut produire du vin au Québec avec le climat qu'il y a ici?
En fait, quand je suis arrivée, quand j'habitais à Vancouver et que je revenais visiter la famille et que je goûtais au vin québécois, j'étais toujours un peu sarcastique parce que j'habitais dans l'Ouest. Puis évidemment, on a l'Okanagan, on fait du très bon vin et le climat est un peu plus facile pour cultiver la vigne. Et quand je revenais au Québec puis que je goûtais les vins, je me disais, OK, ben oui, faut boire local, mais c'est pas trop agréable à boire. Et ce qu'on a fait, en fait, pour que ce soit possible, donc la plupart des cépages que vous connaissez, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, et ainsi de suite, ce sont des cépages qui appartiennent à ce qu'on appelle la vitis vinifera. Donc ça, c'est une catégorie de vignes, si vous voulez, pour faire vraiment ça très simple, parce que je ne vais pas rentrer trop technique. Et donc, c'est des cépages qui appartiennent à l'espèce de vigne vitis vinifera. Et en fait, c'est que ces vignes-là sont très sensibles au froid. Donc, l'hiver, avec nos hivers très rigoureux, ces vignes mouraient. Donc, ce qu'on a trouvé comme compromis, on utilisait ce qu'on appelle des hybrides. Et les hybrides, ce sont des cépages qui sont créés avec un croisement entre des cépages qui appartiennent à Vitis vinifera et des cépages qui appartiennent aux vignes américaines, qui est une autre espèce de vigne, parce que les espèces américaines, en fait, ils peuvent survivre le grand froid. Donc, en faisant un croisement comme ça, on avait des hybrides, donc des cépages qu'on connaît peu, comme le Saint-Pépin, le Céval blanc, le Frontenac gris, le Frontenac blanc, donc des cépages à part le Vermont, les Finger Lakes à New York, au Québec, on connaît pas beaucoup ces cépages, mais on les a plantés parce que justement, ils pouvaient survivre les grands froids. Le truc avec les hybrides, on peut faire du vin intéressant, mais la plupart des gens s'entendent que même si on peut faire du vin intéressant, on fera jamais du grand vin avec ces hybrides. Et ce qui a changé le cours de l'histoire au Québec, je vous dirais, c'est l'arrivée du géotextile. C'est-à-dire qu'on a fait des expérimentations et puis maintenant, presque tout le monde les utilise. Lorsqu'on termine les vendanges à l'automne, on fait rapidement la taille des vignes et on va couvrir les vignes, on appelle ça du géotextile, c'est des toiles blanches. Mm-hmm. Donc, on couvre les vignes. Et donc, pendant l'hiver, lorsqu'il neige, en dessous, il va peut-être juste faire moins 2, alors qu'en haut, il peut faire moins 20.
Ah, très donc, efficace que le géotextile.
Oui, exactement. Donc, ça va isoler les vignes. Et donc, les vignes ne meurent pas l'hiver. Donc, le géotextile a changé. Donc, on fait ça pour les hybrides, parce que même certaines hybrides mouraient, parce qu'il faisait vraiment très froid. Mais aujourd'hui, le géotextile a permis aux gens de travailler les Vitis vinifera. Donc, on retrouve aujourd'hui aussi du Chardonnay, du Pinot Noir. Et là, on commence à voir des vins qui sont plus qualitatifs. Il y a aussi la connaissance de la viticulture. On était une région qui connaissait, qui avait besoin d'apprendre. Donc là, il y a la connaissance qui s'installe, il y a l'arrivée du géotextile et les changements climatiques. Donc, tout ça fait en sorte qu'on commence ici au Québec à produire, par exemple, des bulles très intéressantes. Je pense au domaine Bergeville qui produit de très, très belles bulles. Je pense au domaine Épervenche qui sont là depuis maintenant 25 ans, qui produisent des beaux chardonnays, des beaux pinots noirs, le domaine Nival. Donc, on commence vraiment à produire de plus en plus de vins qui sont intéressants. On a encore beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que le futur est prometteur.
Si j'ai face à moi un amateur de vin demain et que je veux lui faire goûter un vin québécois, je lui propose quoi?
Ben, je pense qu'il faut proposer deux choses. Je pense qu'il faut proposer un vin fait à partir d'hybrides parce que ça fait partie de l'histoire du Québec. Je pense que ça, c'est quand même la typicité. C'est quand même assez unique dans le monde. On n'a pas tant de places dans le monde qui font ces vins-là. Donc, je pense que ce serait intéressant de faire goûter, par exemple, un Céval Blanc. Parmi tous les hybrides, le Vidal et le Céval Blanc, c'est deux hybrides blancs. C'est deux cépages blancs, hybrides, que j'aime mieux. Donc, je dirais, ben on peut goûter un Céval Blanc ou même les bulles faites à partir d'hybrides. Par exemple, je parlais du domaine Bergeville. Ils font des bulles à partir d'hybrides. Et donc, pour moi, ça, les bulles, pour faire des bonnes bulles, il faut que tu aies des cépages qui aient beaucoup d'acidité. Donc, si on mélange les hybrides avec l'acidité, je pense que c'est des vins qui expriment vraiment le terroir nordique du Québec. Donc, je pense qu'il faut commencer avec ça. Puis après, pour montrer ce qui est possible, moi, je servirais, par exemple, le Pinot Noir du domaine Nival. Parce que là, on a plus la nouvelle génération qui est Vitis vinifera, qui montre vers où on peut s'en aller. Donc, c'est ce que je ferais.
Une autre chose qui m'a étonné, pourtant j'ai face à moi une sommelière, on le disait, en plus, les sommelières et sommeliers du Québec sont réputés parce qu'ils ont une connaissance très mondiale, très, très holistique un petit peu de leur art. Et pourtant, il semblerait, je dis bien il semblerait, c'est peut-être encore une boulette, qu'il n'y ait pas forcément énormément de sommeliers dans les restaurants, puisque je vois énormément de restaurants qui affichent en énorme sur leur devanture « Apportez votre vin ». Chose que je n'imaginerais jamais, jamais en France, puisque le moindre petit troquet et tout va forcément non seulement nous proposer du vin, mais en plus, si on a le mauvais goût d'en apporter, on va se faire foutre dehors en moins de deux, parce que c'est une grosse valeur ajoutée pour eux, c'est un bénéfice de marge. Et ici, on nous propose d'apporter notre vin.
Oui, c'est vraiment typique au Québec, puis on n'a pas vraiment ça ailleurs au Canada. ça demeure quand même un petit pourcentage des restaurants. On a des sommeliers partout.
Ah d'accord, c'est juste parce que moi j'ai vu des grosses on va dire des grosses publicités devant avec écrit apportez votre vin comme si c'était un atout.
Ça demeure vraiment une minorité. D'accord. Si on pense aux grands restaurants comme le Toqué, comme la Chronique, qui sont vraiment des institutions ici à Montréal, ils ont un sommelier. Ensuite, on n'a pas nécessairement, puis et parfois, peut-être que le restaurant n'a pas un salaire pour payer le sommelier qui fait que le service du vin, mais il va avoir quelqu'un qui va être en charge de la carte des vins et qui va servir et faire le service du vin en même temps. Non, on a de très, très grands sommeliers aussi au Québec. Moi, j'en suis fière, hein. C'est quand on va à l'international, on se démarque parce qu'on se distingue par les connaissances. Donc oui, on a beaucoup de très, très bons sommeliers dans plusieurs restaurant, apporter notre vin, ça demeure quand même un petit pourcentage de ce qui est là. D'accord. On a beaucoup de bars à vin aussi qui sont très, très intéressants au Québec.
Ben voilà, petit pourcentage, mais grosse affiche et forcément, je me suis fait avoir. Le deuxième aspect que je voulais qu'on évoque et on a commencé à l'aborder avec cette nouvelle génération de vin qui doit donc beaucoup à cette toile, mais qui doit aussi, ça a été prononcé un peu, au changement climatique. Alors, le changement climatique, c'est peut-être une opportunité pour produire du vin au Québec, mais c'est quand même une inquiétude mondiale. Et j'ai face à moi quelqu'un qu'on est visiblement très consciente, puisque vous avez créé, il y a quelques années déjà, Testing Climate Change, qui est un événement autour de la question du changement climatique pour le vin. Et pour terminer la présentation de cette partie, et là aussi ça fait écho au début et de ses voyages un petit peu en France et à l'international qu'il y avait, il a la sortie toute récente d'un livre qui a été coécrit avec Jérémy Kuckerman et Hervé Kennel, qui s'appelle le livre « Quel vin pour demain ? Le vin face aux défis climatiques ».
Oui.
Et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à ça, mais aussi, comment on aborde le sujet ?
Mais en fait, c'est un sujet qui est aujourd'hui le goût du jour, si on peut dire, parce que là, le mur est arrivé. Finalement, on fonce dans le mur, donc on n'a pas le choix. On se réveille un peu trop tard. Mais moi, en fait, c'est un sujet qui m'interpelle depuis 2005. Donc, je suis dans les recherches depuis 2005 et je me souviens, en 2005, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'essayais de trouver en ligne des gens qui s'étaient penchés sur la question autour du vin, la viticulture. Il y avait peu de gens qui avaient fait les recherches et j'avais trouvé un scientifique qui était basé en Oregon et à l'époque, hein, il enregistrait des informations sur des disques et sur des CD. Il me les envoyait par la poste pour me donner de l'information. Donc, il n'y avait pas toute cette information qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça pour dire que je suis là-dedans depuis très, très longtemps, bien avant que ça devienne le goût du jour. Et la première conférence a vu le jour en 2017 parce que en 2005, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais plus jeune dans ma carrière du vin. Et je me suis dit, un jour, quand j'aurai plus de connaissances et plus de connexions, je ferai quelque chose autour de ça. Et pour moi, ce qui était important, c'est de mettre de l'avant les solutions. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute la radio, on voit la télé, les nouvelles, c'est tout le temps la catastrophe. Alors là, il y a eu tant de grêle qui a détruit tant de vignes. Il y a eu les inondations. Donc, c'est tout le temps, on nous met tout le temps la catastrophe. On parle rarement des solutions. Et ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que on peut bien parler des catastrophes aussi longtemps qu'on veut, mais si on propose pas la solution, on va pas rien faire. Et l'autre chose, c'est que on se sent des fois dépassé par tout ça, on sait pas par où commencer. C'est tellement gros que on sait que c'est là, mais on sait pas par où commencer. Donc moi, la conférence et le livre est juste une continuité de ça en fait, c'était de réunir les plus grands experts au monde pour, bien sûr, il faut faire l'état des lieux pour pouvoir parler des solutions. Mais la conférence est vraiment axée sur les solutions, de la vigne au verre. Et le vin, c'est quelque chose qui est très fragmenté. C'est-à-dire que le viticulteur qui fait son vin est dans ses vignes, puis il y en a beaucoup à faire. Il faut qu'il s'occupe de ses vignes, il faut qu'il fasse son vin. Il y a peut-être 10 marchés ou 50 marchés dans lesquels il exporte. Donc, il faut qu'il fasse affaire avec des agents partout dans le monde. C'est un travail très complexe. Il n'y a pas nécessairement le temps de faire toutes les recherches pour savoir quelle bouteille est plus éco-responsable. Il n'y a pas nécessairement le temps de faire les recherches pour ce qui s'est écrit dernièrement pour faire une meilleure gestion du sol. Donc, l'idée, c'était de réunir un ouvrage ou une conférence qui mettait de l'avant les solutions qui étaient disponibles pour qu'ensuite le viticulteur ou le sommelier ou peu importe ait une idée en tête de ce que cette personne peut faire. Parce que et que toutes les parties qui impliquent la production et la vente se réunissent pour communiquer ensemble et pour travailler sur des solutions. Donc, c'est comment, donc pour répondre à votre question, comment on s'y prend? J'ai vraiment fait par étapes de la vigne au vert, donc du choix du matériel viticole jusque comment on travaille les sols, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vigne, donc jusqu'au choix du cépage, la gestion du sol, sur après qu'est-ce qu'on peut faire dans le chai face aux défis climatiques, ensuite le transport, le conditionnement, la vente, c'est quoi le rôle d'un sommelier, donc on a vraiment de la vigne jusqu'au verre.
C'est vrai que c'est quelque chose quand même moi-même hein, quand j'ai commencé à préparer l'émission, dès que j'ai vu 20 changements climatiques, j'ai tout de suite pensé à la production. Mais c'est vrai que la production du vin, c'est au final une petite partie, en tout cas de l'industrie, pas forcément de l'AEC, parce que c'est des mois et des mois de travail pour le producteur, mais au final, sur l'industrie, ça n'est qu'une petite partie. Ouais. Et ne se concentrer que sur la production n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Une réflexion que je me faisais dans une précédente émission, je crois que c'était l'émission numéro 3, donc ça date un peu, avec Gilles Brien, qui est météorologue québécois. On discutait ensemble des changements climatiques et il m'expliquait, alors je schématise toujours un peu pour aller plus vite, mais que les changements climatiques avaient été perçus plus durement et plus rapidement là où le climat était un petit peu plus extrême, et donc à l'inverse, là où les climats étaient un peu plus tempérés, on va dire que les changements étaient peut-être moins flagrants ou un peu plus tardés à se faire ressentir, et donc forcément la prise de conscience peut-être un petit peu plus difficile à se faire. Or, de ma connaissance, les climats tempérés, comme la France, c'est quand même plutôt des environnements qui sont assez porteurs pour la culture du vin. Et du coup, je me demandais, est-ce que l'accueil dans les grands pays producteurs de vin, comme la France, comme l'Italie, est-ce que l'accueil de ce sujet a été facile, ou il a d'abord fallu vraiment faire un gros travail de conviction pour que les gens se rendent compte de l'urgence?
Je peux pas parler pour la population, c'est-à-dire que moi, le livre a vraiment été écrit. C'est sûr qu'un amateur de vin peut prendre ce livre-là, mais c'est quand même assez pointu. Donc, on a écrit plus un guide pour les gens qui travaillent dans la filière viticole. Moi, je peux juste dire que les gens qu'on a le moins à convaincre, c'est les agriculteurs, c'est les viticulteurs. Ils travaillent avec la terre tous les jours, ils le voient bien. Après, oui, peut-être que dans les extrêmes comme le Portugal, dans les climats très secs et méditerranéens comme la Californie, comme le Portugal, ils ont vu l'Australie, ils ont vu des feux, ils ont vu des sécheresses extrêmes. Oui, mais après, on aimerait bien que ce soit noir ou blanc comme ça. Quand on parle de changement climatique, c'est pas nécessairement de réchauffement, c'est vraiment de changement et de bouleversement climatique. Donc, on commence à voir, hein, puis dans le livre qu'on a fait, les deux premiers chapitres, Hervé Kenol, c'est le scientifique, donc c'est un climatologue scientifique, donc c'est lui qui a écrit les deux premiers chapitres, vraiment sur l'état des lieux, sur les projections, sur où on est et où on s'en va, sur toutes les projections scientifiques qui ont été faites de partout dans le monde, et un amalgame de tout ça. Et il y a des divergences d'opinion sur vers où on s'en va, mais on est tous d'accord qu'on s'en va vers plus d'extrêmes, mais pas juste dans les régions où est-ce qu'il, par exemple, c'est déjà sec, comme l'Australie ou l'Afrique du Sud ou l'Espagne, ou Portugal ou le sud de la France, par exemple. Ce qu'on sait, c'est que, en général, les régions très secs et arides et très chaudes, oui, il va y avoir encore moins de précipitations, ça va être encore plus difficile, puis peut-être que les feux vont être là plus souvent, mais dans les régions plus tempérées, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus de précipitations. Et les précipitations, si tu en as l'hiver, ça va. Mais si tu en as entre entre la floraison et ce qu'on appelle la veraison, bien là, tu vas avoir une moindre qualité de fruits. Et c'est pour ça qu'au Québec, par exemple, ça dépend des années, mais depuis qu'on voit plus de changements climatiques, parfois, pendant l'été, on a beaucoup de pluie au moment où on ne veut pas la pluie. Donc,
c'est vrai.
Donc, c'est ça, en fait, c'est complexe. C'est, les gens aimeraient bien dire, ben, il va se passer ça dans tel endroit, puis ça dans tel endroit, alors que c'est les irrégularités qui rendent des choses très difficiles, parce que la vigne a besoin de choses très précises à certains moments de l'année.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
C'est ça qui est difficile, en fait. Ouais.
Dans les solutions qui sont proposées dans le livre, Quel vin pour demain, est-ce que vous pensez qu'un certain nombre de ces solutions sont aussi, on va dire, abordables ou extrapolables pour tout autre type de culture?
Oui,
parce que le vin, c'est important, c'est culturel, mais pas que.
Absolument. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Je dis toujours que ma passion, c'est le vin. Et je dis aux gens, si on peut communiquer ça aux consommateurs et qu'on peut être un peu les porte-parole, après, les gens prennent conscience de certaines choses. Puis, en fait, ça commence à déteindre sur notre vie. Moi, je sais que une des personnes qui m'a toujours beaucoup inspirée, bien avant qu'il soit le ministère de l'Environnement, c'était Stephen Guilbeault. Mm-hmm. Et Stephen Guilbeault, que je connais bien, qui m'a toujours beaucoup soutenue dans ma démarche. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert ma première conférence en 2017. Et Stephen, je me souviens, à un moment donné, je faisais une entrevue avec lui, puis je lui ai dit... Je me sens dépassée par tout ça, tu sais. Par où on commence? Je me dis, tu sais, si chaque personne commençait par sa passion et se questionner. Donc, si ta passion, c'est les vêtements, toute l'industrie du vêtement peut polluer. Donc, tu commences...
Oui.
Alors, on peut commencer par ce qui nous passionne et après, nécessairement, tu prends conscience de d'autres choses qui influencent le reste de ta vie. Et moi, mon intérêt pour les changements climatiques dans le vin a fait en sorte qu'aujourd'hui, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de changements qui n'ont rien à voir avec le vin. Donc, je pense que oui, tu sais, quand on parle du vin, par exemple, je dis toujours aux gens, si vous prenez une bouteille à la SAQ et qu'elle pèse 1 kilo, faut pas l'acheter. Parce que le conditionnement, c'est un tiers de l'empreinte carbone d'une bouteille de vin. Donc, il n'y a aucune raison en 2021 qu'un producteur mette du vin dans une bouteille lourde. Le produit n'est pas meilleur parce qu'il est dans une bouteille lourde. Si on voit une bouteille lourde, on a un droit de vote en disant, tu fais ça, moi, je ne la jette pas. Je vais choisir une bouteille allégée. Donc, je dis, si vous prenez la bouteille et que vous avez besoin de vos deux mains pour la tenir, il faut la laisser derrière. Donc, après, il y a OK, le conditionnement. Le conditionnement, c'est dans tout ce qu'on mange. Il faut apporter nos contenants chez le boucher. Donc, ça, c'est juste une partie. Après, l'agriculture, je crois que j'ai vu un documentaire qui m'a énormément touchée. Je l'ai vu deux fois, puis je veux le revoir une troisième fois. Puis là, je suis un peu devenue maniaque d'un homme qui s'appelle Alan Savory. Mais le documentaire, c'est sur Netflix, vous pouvez le voir, ça s'appelle Kiss the Ground. C'est tellement beau parce que ça démontre à quel point l'agriculture, mais ça inclut la viticulture, donc toutes les gens qui sont des agriculteurs, peuvent avoir un effet extraordinaire sur... Donc, si tu fais une bonne gestion de tes sols, en fait, c'est que tu captures le carbone. Donc, tu séquestres le carbone dans le sol. Et juste avec l'agriculture, si on fait une bonne gestion des sols, qu'on arrête d'utiliser les produits chimiques et qu'on apprend, qu'on ait un meilleur apprentissage des agriculteurs, un, les agriculteurs vont être moins pauvres parce qu'ils vont avoir un plus grand retour de la terre, mais deux, ces sols-là qui sont plus en santé, il y a une séquestration de carbone qui arrive dans le sol, et là, ce CO2 qui est dans le sol, il reste dans le sol. Et ça, c'est tellement... J'ai regardé ça, je me dis... Je pleurais, je me dis... Il y a tellement de solutions. Et c'est pour ça que les industries doivent se parler. Et c'est pour ça que, oui, les gens disent tout le temps, oui, mais les gouvernements doivent prendre des actions. Oui, mais on est aussi le gouvernement. On peut pas attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Nous, on est le gouvernement.
En démocratie, c'est nous le gouvernement.
Oui, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. C'est ça.
Alors justement, je vais à la SAQ. Alors la SAQ, pour ceux qui connaissent pas, c'est la Société des Alcools du Québec. C'est là où on peut trouver à peu près tout ce qui ressemble à de l'alcool et une grande variété de choix, effectivement. J'ai la fibre, on va dire, écolo. Je vais à la SAQ. Ok, j'ai compris. La bouteille de vin qui fait un kilo avec la bouteille en verre elle-même qui fait juste 600 grammes toute seule, je la prends pas.
Oui.
Quels sont les autres conseils à appliquer pour que au quotidien, moi qui suis pas producteur, mais qui suis simple consommateur, je puisse un petit peu influer l'industrie dans le bon sens, sachant que j'imagine que c'est des conseils que je peux appliquer à tout autre type de consommation.
Je pense qu'une des autres choses, donc, il y a plein de producteurs qui font des bonnes choses, mais qui n'ont pas nécessairement de certification. OK? Par contre, il y a quand même plusieurs certifications qui existent et qui démontrent, et ces certifications se retrouvent sur la bouteille en forme d'étiquette, qui démontrent que le producteur est engagé et suit une démarche environnementale. Et c'est certification, ça peut être une certification bio, ça peut être une certification en biodynamie. Donc, généralement, puis il y a toujours des exceptions, hein, puis ça devient complexe, oui, là. Mais généralement, quelqu'un qui travaille en bio, en biodynamie, ou qui a une étiquette de développement durable, hein, souvent les étiquettes vont être en anglais, mais sustainable. Donc, des étiquettes de durabilité, des certifications, ça démontre quand même que ces gens-là se soumettent à des règles qu'ils doivent les suivre parce qu'on va aller vérifier chez eux qu'ils les suivent. C'est sûr qu'on encourage, hein, c'est comme un droit de vote, on vote, on dit oui, moi je vote pour un producteur qui a une démarche environnementale. Est-ce que ce producteur-là est parfait de A à Z? On le sait pas, on n'est pas là. Mais déjà, on préconise un producteur qui a une démarche environnementale. Ça, c'est vraiment un bon départ. Après, ça, si on est pressé, ben on peut, de plus en plus, la SAQ, des monopoles comme la SAQ vont avoir des sections comme ça où on va vraiment le voir sur les étiquettes. Après, si on a un petit peu plus de temps et qu'on n'est pas pressé entre le travail et le souper qui nous attend et les enfants dans la voiture, on peut commencer à demander aux gens. Moi, j'essaie de faire beaucoup d'éducation au niveau de... Ça passe beaucoup par l'éducation, hein. Faut éduquer les gens. Donc, les sommeliers, les conseillers en vin. Donc, de plus en plus, les gens développent une sensibilité à ça. Donc, si on a un petit peu plus de temps, peut-être de parler à votre conseiller en vin, parce que souvent, ces gens-là vont connaître les producteurs, peut-être leurs pratiques viticoles, en disant, oui, ce producteur-là, des marches environnementales. Donc, si on a un petit peu plus de temps, on peut commencer à parler avec les conseillers en vin qui vont pouvoir aussi nous diriger vers des vins. Alors, dans ce monde idéal, c'est sûr que dans un monde idéal, on veut dire aux gens, je prends ma voiture électrique. Je conduis jusqu'au producteur, j'apporte ma bouteille vide, je la remplis, oui, je reviens, et là, j'ai bu local, je suis dans ma voiture électrique, ça c'est l'idéal. Le deuxième idéal, je prends ma voiture électrique, il n'y a peut-être pas le vin en vrac chez le producteur, mais j'achète directement du producteur, qui a mis son vin dans une bouteille allégée, je reviens, je recycle ma bouteille. Ça c'est l'idéal, mais bien sûr... On aime boire le vin français, on aime boire du vin d'ailleurs dans le monde. Donc, je pense que la consommation locale, il faut la privilégier. Mais sinon, de privilégier des vins qui ont une certification avec une bouteille allégée. Je pense que ça, c'est déjà un grand pas.
En général, quand il y a des mouvements comme ça dans des industries, moi, en tant que communicant, marketeur, publicitaire, je l'ai vu dans plusieurs autres industries, il y a un sujet qui commence à émerger, dont on sent que les consommateurs commencent à être un peu interpellés. Et en général, la transformation se fait à partir du moment où quelques leaders du marché décident de passer le pas. En France, par exemple, on a pu connaître ça dans la charcuterie avec des transformations assez importantes. Est-ce que ceux qui sont les leaders aujourd'hui de l'industrie du vin, donc bah, j'imagine les châteaux, les gros, est-ce qu'ils sont déjà, en général, parce que là j'imagine aussi qu'il y a des exceptions, mais impliqués, est-ce qu'ils montrent l'exemple ou est-ce qu'ils font encore évangéliser pas mal?
De plus en plus, bon, mon idole, je vous dirais, pour les changements climatiques dans le vin, il s'appelle Miguel Torres. Monsieur Miguel Torres, aujourd'hui, il a plus de 80 ans, il habite, je pense qu'il a plus, je sais pas, c'est pas son nom, mais je pense que oui. Il habite dans le Penedès, en Espagne. Et Monsieur Torres, en fait, il a toujours été innovateur, il a toujours été en avant de son temps dans tout. Il a changé beaucoup l'histoire des vins espagnols pour des raisons de vinification, par exemple. Et lui, en 2006, quand il a vu le documentaire d'Al Gore, qui était « The Unconvenient Truth », en fait, qui parlait des changements climatiques et qu'est-ce qui allait arriver. Moi aussi, je l'ai vu. En fait, c'est très drôle parce que moi, c'est ce documentaire qui m'a fait vraiment... qui m'a bouleversée, qui a fait que je milite aujourd'hui. Mais lui aussi. Et il s'est dit, si je fais pas quelque chose maintenant, il faut faire quelque chose. Donc, jusqu'à maintenant, M. Torres, il a investi 15 millions d'euros.
Wow.
Ouais, dans l'adaptation et la lutte des changements climatiques. Donc, il fait des partenariats avec plein d'universités dans le monde pour faire des recherches. Il a commencé à monter, il y a une association maintenant qui incite d'autres producteurs à se joindre à l'association. Et avec ça, ils ont un but de décarboniser l'industrie du vin, donc de mettre des buts très, très clairs de qu'est-ce qu'il faut faire. Et ils sont très, très généreux. Moi, j'ai eu le privilège de passer une semaine entière avec la famille il y a 2 ans, puis il était à ma dernière conférence. C'est lui qui a ouvert la conférence. Et je leur parlais régulièrement. C'est lui qui a fait la préface de mon livre, d'ailleurs. Et donc, lui, il est devenu un leader mondial et commence à faire des partenariats avec d'autres joueurs très, très importants qui produisent beaucoup. Et là, ces gens-là commencent à faire beaucoup de bruit. Donc, je pense qu'il faut les deux. En fait, il faut des domaines qui produisent beaucoup pour parler et pour faire les changements. Il faut aussi des domaines peut-être plus petits et prestigieux qui parlent fort aussi. Et ça, on commence à le voir aussi, je pense, à des producteurs comme Pontécanet, par exemple, à Bordeaux, très prestigieux. Donc, on commence à le voir de plus en plus. Et je pense que les gens vont être sarcastiques, ils vont dire « oui, mais il y a... » Parlez-moi pour l'expression anglaise, il y a du greenwashing.
C'est vrai.
Puis il y en a qui vont prendre la vague parce qu'ils savent que c'est du marketing. Et moi, je me dis, OK, si pour eux, le marketing, c'est qu'ils adoptent les bouteilles allégées. Qu'ils fassent du marketing. Donc, tant mieux. Est-ce que ça va être parfait? Est-ce qu'ils le font pour les bonnes raisons? Au final, la planète, si le CO2 descend, que ce soit pour les bonnes raisons ou pas, il va avoir descendu. Donc, moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens. Puis moi, j'ai vu la différence en 2010, parce que quand je fais une conférence, j'ai besoin de commanditaires parce que je fais toute seule, donc de A à Z. Donc, c'est moi qui produit, qui trouve l'argent, qui anime, qui trouve les conférenciers. C'est un travail colossal et j'ai besoin d'aide financière. Et en 2017, quand j'ai fait la première conférence, puis j'essayais de trouver des commanditaires, c'était impossible ou très difficile. Les gens ne voulaient pas être associés au changement climatique parce que ça avait une connotation négative. Alors que là, après 3 conférences, cette année, pour la première fois, les gens m'appelaient en me disant « je veux faire partie de ta conférence, je veux donner, je veux t'aider ». Ça, c'est un changement assez rapide en quelques années.
Ah oui, seulement 3 ans.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, qui est assez, qui est, qui est assez énorme, qui est pas parfaite, qui est certainement pas suffisante, mais qui est assez énorme. Et en 3 ans, c'est fou de passer d'un extrême à un autre. D'ailleurs, pour en revenir à ce qu'on disait sur le marketing et le choix de passer aux bouteilles allégées, mais ça prouve bien que les consommateurs d'une manière générale, donc nous tous, avons véritablement la main, parce que les changements vont être initiés par des gens qui sont convaincus, et puis il y a des gens qui sont pas convaincus, dont le seul intérêt c'est de faire de l'argent. Sauf que si demain on arrive à les convaincre que pour faire de l'argent, il faut qu'ils fassent des bouteilles allégées, qu'ils aient des démarches plus vertueuses, ils hésiteront pas à le faire. Ils le feront pas par conviction, ils le feront pas parce qu'ils veulent sauver la planète, ils le feront pour leur portefeuille.
Oui.
Oui, mais ils le feront.
Exactement. Et on a vraiment... Tu sais, moi, je dis toujours, qui aurait dit que quand tu vas à la SAQ maintenant, tu as une section entière de vins oranges. Ce sont des vins blancs qui sont faits comme des vins rouges avec un contact sur peau. C'est des vieilles techniques qu'on avait en Géorgie, en Arménie, il y a longtemps, longtemps. Et il y a 20 ans, c'était des vins très niches que personne ne connaissait, mais les sommeliers ont commencé à réintroduire ces vins, les consommateurs ont aimé. Donc, qu'est-ce que la SAQ fait? Ben, ils ont une section entière de vins oranges. Donc, oui, le consommateur, on a vraiment, vraiment, vraiment un pouvoir. Ils vont suivre les tendances, ils vont vouloir vendre ce que les consommateurs veulent avoir, vraiment.
Ah oui, c'est sûr. Alors, Michel, je suis désolé parce que je m'apprêtais à presque conclure cet entretien, mais on va se reprendre un petit 5 minutes. Le vin orange... Parce que pour moi, il y a du vin blanc, il y a du vin rouge, il y a du rosé, il y a du vin gris. Mon grand-père, dont on parlait et tout, faisait du vin gris, ce qu'il appelait du vin gris. Mais alors, du vin orange, c'est la première fois de ma vie, il faut dire que je ne passe pas mes dimanches à SAQ non plus, c'est la première fois de ma vie que j'en entends parler. C'est quoi ça donc?
Alors, donc, une très, très vieille technique. Hein. Donc, à l'époque, en Arménie, en Géorgie, on faisait, lorsqu'on utilisait des cépages blancs, on laissait le... Aujourd'hui, OK, on va revenir. Aujourd'hui, quand on fait du vin blanc, hein, la technique, en général, on va séparer la peau des jus. On veut pas laisser le contact de la peau parce qu'on veut, on veut pas les tanins, le côté asséchant que donne la peau. Et on veut, donc, quand on fait du vin blanc, on sépare la peau des jus. OK? Avec le vin rouge, comment on va avoir la couleur? Est-ce qu'on va laisser le jus macérer avec la peau, et là, on va extraire la couleur et les tanins. Il y a des milliers d'années, comment on faisait le vin, on n'avait pas nécessairement compris toutes les techniques de vinification, puis on faisait du vin blanc, on laissait macérer le blanc sur les peaux.
OK.
Et si tu laisses macérer ton blanc sur les peaux, ça donne une amertume, ça donne une couleur plus orangée. C'est des vins qui sont un peu entre le blanc et le rouge comme style, parce que c'est tannique, ça assèche, hein, il y a beaucoup de caractère, c'est assez prononcé comme goût aussi. Donc, on a laissé cette vieille technique de côté. Et dans les dernières années, il y a un peu un retour à l'ancienne. Et il y a des producteurs, en fait, qui, dans les années 90, surtout dans la région de Friuli, en Italie, par exemple, qui font des vins comme ça. Et c'est devenu un peu le dada de plein de sommeliers, de retrouver ces vins c'est des vins qui sont intéressants à la table parce que tu peux faire des bons accords, des accords intéressants. Et c'est très favorable pour les cépages aromatiques. Donc, les cépages qui sont plus florales, comme le gouverne straminaire, le muscat. Parce que, en fait, le côté aromatique du cépage, on le retrouve beaucoup dans la peau. Donc, si tu vas laisser le jus en contact avec la peau, tu vas extraire ses aromatiques, mais aussi un côté tannique. Donc, si tu fais ça, tu vas avoir un côté orange. Le vin est couleur orange parce que tu as laissé le jus en contact avec la peau pendant plusieurs semaines. Donc, ça, à l'époque, c'était très niche. Moi, je me souviens, au début des années 2000, j'aimais en goûter, mais c'était difficile à trouver. Aujourd'hui, hier, je suis allée à la SAQ parce que j'enseigne, puis je suis allée chercher des vins pour mes étudiants. J'ai fait, oh mon Dieu, il y a une section entière de vins à la SAQ.
C'est fou. C'est complètement fou. Ouais. Comme quoi, pour ceux qui pouvaient craindre que les modifications qui impliquent les changements climatiques dans nos vies, pour le vin, mais comme pour le reste, pour ceux qui pouvaient craindre que ça restreigne nos choix, que ça limite nos choix, la preuve que non. Ça les décuple.
Oui, et puis peut-être de terminer là-dessus, quand vous dites qu'est-ce que le consommateur peut faire, bouteille allégée, certification, pose des questions, puis avoir une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, si on regarde les cépages qui sont plantés, je crois que 13 cépages seulement font un tiers de toutes les vignes dans le monde, alors qu'on a plus de 6000 cépages qui existent. Donc, avec les changements climatiques, on commence à redécouvrir des cépages qui sont des cépages autochtones, qui sont moins connus, mais qui sont peut-être plus adaptés aux changements climatiques et qui vont prendre moins d'eau, par exemple, qui vont être plus adaptés aux conditions extrêmes. Donc, je dirais aux consommateurs, dans les prochaines années, vous allez voir arriver sur les étagères peut-être des vins que vous connaissez pas, des régions que vous connaissez moins. Soyez curieux, essayez, vous allez faire des belles découvertes et il y a tout un monde à découvrir et qu'on va découvrir, je crois, encore plus avec les changements climatiques.
Eh ben, comme quoi, en fait, les changements climatiques, on en parle effectivement beaucoup pour des questions forcément hyper négatives et avec des discours assez anxiogènes, mais ça peut être une super opportunité et nous apporter un avenir assez intéressant, créatif, curieux, super chouette. D'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure en parlant du vin blanc et du vin orange, de la séparation ou non des peaux, je tiens à dire, et ça va en continuité avec le vin, que moi-même, j'ai une paire de sneakers, de baskets, enfin, qui est faite, dont le cuir est fait avec de la peau de raisin. Ah. C'est une petite société qui est basée en région, évidemment, bordelaise. Hein. Voilà. Une petite start-up qui s'appelle Zeta, qui fait des baskets absolument super.
Voilà. J'ai lu là-dessus, oui.
Voilà. Et c'est vachement bien. Ça fait un peu plus d'un an que je les porte. Elles n'ont pas bougé. Elles n'ont strictement rien à envier avec le reste. Et voilà, c'est comment utiliser cette peau de raisin dont on ne savait que faire. Eh ben, on en fait des baskets et c'est super, ça évite plein de choses. Il y a plein de solutions à trouver là-dedans, c'est chouette.
Oui, en fait, puis je vous dirais que cette quête et ce travail que je fais depuis 2005 sur les changements climatiques, et ça a été encore plus évident cette année en faisant les recherches vraiment approfondies pour le livre, c'est que les solutions sont vraiment là. Il faut juste les mettre en place. Il y a vraiment des solutions. Tu sais, j'aimerais bien qu'on dise aux nouvelles, au lieu d'arrêter de nous faire peur, de dire « voici ce qu'on peut faire ». Et les solutions sont là, il faut juste les mettre en pratique.
Il n'y a plus qu'à, en tout cas, on va essayer de diffuser au maximum ce balado pour qu'au moins il fasse ce œuvre dans ce sens-là. Et puis pour le reste, si les autres médias pouvaient nous filer un petit coup de main, ça serait effectivement pas trop mal. Michel, c'était un vrai plaisir de vous recevoir.
Mais merci, je suis honorée. Merci beaucoup, beaucoup.
Et puis, bonne chance pour le livre, bonne chance pour les prochaines conférences, bonne chance pour l'évangélisation. Et puis, à très bientôt, j'espère.
À très bientôt, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Ouais, j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le Bédu, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.